Elle sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci de votre confiance. Dans un instant, RFI vous donnera la parole comme tous les matins. RFI vous écoutera sur les mesures adoptées dans vos pays respectifs pour faire face à la pandémie de coronavirus. Dans certains pays, on a décidé d'assouplir les mesures de confinement. Dans d'autres, on a renforcé la riposte. Parlez-nous de votre vie quotidienne. Vos témoignages dans un instant. Dans 30 minutes, la libre antenne. Nous sommes vendredi, donc vous allez pouvoir commenter l'actualité de votre choix. Vous êtes très nombreux à souhaiter réagir à la mobilisation aux États-Unis après la mort de George Floyd, tué il y a une dizaine de jours par un policier blanc. Vous nous interpellez également sur cette polémique autour du texte de la nouvelle constitution en Guinée. Certains d'entre vous reviennent sur les propos du ministre de la Justice au Niger, un ministre qui a laissé entendre que l'opposition était placée sur écoute, et toujours autant de réactions sur le procès de Vital Kamerhe en République démocratique du Congo, procès diffusé en direct à la télévision, donc vous qui êtes sur place, vous le regardez, vous le suivez. Le directeur de cabinet du président congolais qui est, je vous le rappelle, accusé d'avoir détourné des fonds publics. Voilà quelques-uns des sujets que nous aborderons tout à l'heure dans la libre antenne. Mais d'abord, une question à la rédaction de RFI. Bonjour Étienne.
Bonjour, comment ?
Vous êtes à Yaoundé, au Cameroun. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Bon, voilà, 180 scientifiques ont écrit une lettre dans laquelle ils remettent en cause l'étude publiée dans la revue de Lancet sur les dommages causés par la chloroquine. Mmh. Alors, j'ai deux questions. La première question, que reprochent ces scientifiques à l'étude publiée par la revue de Lancet?
Alors, on va déjà répondre à cette première question. C'est vrai que des scientifiques du monde entier ont contesté cette étude. En France, le professeur Raoult a même affirmé qu'elle était, je cite, « foireuse ». Bonjour Simon Rosé.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Ça vous fait sourire, hein, ce terme d'étude foireuse. Mais voilà, ce sont les propos du professeur Raoult. Vous êtes journaliste au service sciences de RFI, Simon Rosé. Il y a ces scientifiques dans le monde entier qui contestent donc cette étude, publiée il y a maintenant 2 semaines. Et puis, coup de théâtre tout de même. 2 des 3 auteurs de cette étude controversée sur l'hydroxychloroquine donnent raison à tous ces scientifiques, puisque ces 3 auteurs se sont rétractés. On va essayer de comprendre exactement, Simon Rosé, pourquoi cette étude est sous le feu des critiques?
Alors déjà, on va voir de quoi on parle, parce que, comme on le disait, cette étude a été publiée dans The Lancet, qui est vraiment un journal qui est plus que centenaire et qui est un journal de référence. Donc quand The Lancet, en général, publie une étude, on fait confiance. C'est un journal sérieux et vraiment de référence. C'est pour ça que cette étude a d'ailleurs eu autant d'écho. C'est quoi cette étude? C'est ce qu'on appelle une étude observationnelle, c'est-à-dire que les auteurs ont compilé des données qui existaient déjà sur des patients pour essayer d'en tirer des enseignements. En l'occurrence, ce qui était étudié, c'était l'efficacité de l'hydroxychloroquine, de la chloroquine et de ces 2 molécules associées avec l'azithromycine. Sur une base de données qui est assez conséquente, puisque c'est 96 000 patients, les dossiers de 96 000 patients qui ont été étudiés venant de 671 hôpitaux dans le monde entier, sur tous les continents. Et en fait, le gros des critiques s'est positionné justement sur cette base de données. Il y avait de sérieux doutes sur cette base de données qui a été constituée, puisqu'elle est quand même très très conséquente, avec des informations qui viennent du monde entier, de différents hôpitaux. Donc il faut uniformiser toutes ces données pour ne pas avoir de biais, pour qu'elles soient intelligibles. Et c'est sur ce travail-là qu'il y a de grosses questions qui ont été levées. Par exemple, si on se penche un peu sur cette table de données, on constate que le taux de personnes diabétiques, par exemple, il est le même sur tous les continents, d'après cette base de données, alors qu'en vrai, on sait que ce n'est pas le cas. Il y a des continents, par exemple en Europe ou en Amérique du Nord, où le taux de personnes diabétiques est bien plus important qu'en Asie, par exemple. Donc le fait d'avoir, par exemple, ces mêmes taux sur tous les continents, c'était un peu suspect. Par exemple, si vous fumez, sur les comorbidités, vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, on va vous demander si vous fumez ou pas, ce genre de choses, ça va être rentré dans votre dossier patient. Si on ne vous pose pas cette question, cette base de données va considérer que non, vous n'êtes pas fumeur, alors qu'en fait, on vous a juste pas posé la question, donc on ne peut pas le savoir. Donc on ne peut pas tirer d'enseignement, en fait, d'une base de données constituée ainsi, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Mmh. Donc toutes ces questions-là, en fait, sont apparues après coup, et ce sont un peu tous ces griefs qui sont reprochés à cette étude et qui ont fait l'objet de cette cette lettre de demande d'explication de plus d'une centaine de scientifiques.
Voilà, des critiques donc sur la méthodologie concernant la réalisation de cette étude qui a conclu, rappelons-le, que l'hydroxychloroquine n'était pas bénéfique aux malades du Covid-19 hospitalisés et qu'elle pouvait même être néfaste. Notre auditeur Étienne avait une seconde question à vous poser. Étienne.
Oui, la seconde question est celle-ci. Est-ce que ces critiques sont-elles à l'origine du révisement de l'OMS quant à la suspension de l'hydroxychloroquine?
Alors c'est vrai qu'après la publication de cette étude, l'OMS avait suspendu son essai clinique sur l'hydroxychloroquine. Finalement, mercredi, l'organisation a annoncé la reprise des essais cliniques. Comment expliquer ce revirement, ce rétropédalage de l'Organisation mondiale de la santé?
Bah, c'est un peu même cause, même effet, hein, puisque c'est cette publication en premier lieu qui avait poussé l'OMS à suspendre l'hydroxychloroquine de son essai clinique dans un premier temps. Donc du coup, à partir du moment où il y a des doutes sur cette étude et que le Lancet avait publié dès mercredi une expression of concern, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faisait part de ses inquiétudes sur la véracité, la solidité de cette étude, du coup l'OMS en a tenu compte et a réintégré l'hydroxychloroquine dans son protocole d'essai clinique. Comme je disais, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est on peut se poser la question pourquoi dans un premier temps l'OMS avait quand même décidé de suspendre l'hydroxychloroquine malgré cette étude, parce que cette étude, comme je disais, c'est une étude observationnelle, c'est-à-dire qu'elle intervient a posteriori, on épluche des dossiers de patients. C'est pas un essai clinique à proprement parler où on donne un médicament et on compare à un groupe contrôle ce qui se passe, ce qui se passe pas. Une étude observationnelle, elle peut voir des corrélations, mais elle va pas déterminer un lien de causalité. C'est une étude qui a un faible niveau de preuve. Donc, dans un premier temps, déjà, on peut se demander pourquoi l'OMS, même pourquoi la France, ont pris des décisions de suspendre l'hydroxychloroquine de leur protocole d'essai clinique. Et c'est encore plus bizarre pour l'OMS, puisque son essai Solidarity est justement conçu de telle façon qu'il pourrait apporter un fort niveau de preuve. Il faut un essai comme celui pratiqué pour l'OMS pour déterminer si oui ou non, parce qu'on ne le sait toujours pas, si oui ou non l'hydroxychloroquine a un effet. Donc la sortir, c'était un peu... on pouvait regretter cette décision de suspendre l'hydroxychloroquine dans un premier temps. Bon, le bras hydroxychloroquine est revenu dans cette étude, donc on pourra espérer enfin avoir une réponse un jour. Voilà. Et je voulais quand même rappeler quelque chose également. Le fait que le Lancet indique le retrait de cet article... Certes, il y a eu un problème en premier temps puisqu'ils l'ont accepté alors qu'a priori, ils n'auraient pas dû le faire. Donc, c'est qu'il y a un problème dans le processus de validation et de relecture. Vous savez, comme je suis scientifique, je soumets un article à une revue scientifique. Il est relu par mes collègues, analysé par mes collègues, critiqué par mes collègues pour vérifier qu'il est solide. Ce qu'on appelle le reviewing. Et en général, c'est ce qui permet d'assurer le bon fonctionnement de la science. C'est ouvert au débat. Il y a des critiques, on y répond. Là, ce travail a été mal fait. Il faudra se pencher sur la question de savoir pourquoi ça a été mal fait et pourquoi il y a eu un trou dans la raquette comme ça. Mais le fait que le Lancet, aussi rapidement, quand même 2 semaines après, retire cette étude, montre quand même que le système ne fonctionne pas trop mal sur le coup. Ça a été assez rapide. Donc, il faut quand même avoir ça en tête.
Bien, merci beaucoup de toutes ces explications, Simon Rosé. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que pour l'instant, on ne sait toujours pas si l'hydroxychloroquine est efficace contre le Covid-19. Étienne, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Je suis très satisfait.
Eh bien, tant mieux. Eh bien, en remerciant surtout Simon Rosé du service Sciences de RFI, sachez qu'à partir de la semaine prochaine, on reprendra notre formule habituelle. Vous pourrez de nouveau nous poser toutes vos questions sur l'actualité. Ces 3 derniers mois, on a surtout privilégié les questions concernant le Covid-19. À partir de lundi, toutes vos questions sur tous les sujets que nous traitons dans nos différentes tranches d'informations. Vous savez comment nous rejoindre, hein, le téléphone 33 9 693 693 70 ou bien les réseaux sociaux, notamment la page Facebook RFI, appel sur l'actualité. Vos témoignages maintenant concernant la pandémie de Covid-19. Le témoignage de Pape, il nous a contacté de Dakar. Bonjour Pape.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Sénégal, où la colère est montée ces derniers jours contre le couvre-feu instauré depuis le mois de mars pour lutter contre le Covid-19. Vous comprenez, vous, hein, cette colère, Pape?
Tout à fait, je comprends cette colère, d'autant plus que je dois dire, Juan, que je suis extrêmement déçu de cette gestion du Covid au Sénégal depuis le début. Et c'est un sentiment qui est largement partagé par la population, ce qui explique un peu ces manifestations.
Mais en même temps, le couvre-feu, effectivement, ça empêche la population de sortir le soir, mais c'est un mal nécessaire, non, pour stopper l'évolution de la pandémie.
Alors, Juan, il faut dire qu'il y a une chronologie dans cette histoire-là, c'est-à-dire que au tout début de cette épidémie, le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, est sorti, alors, avec une batterie de mesures, donc... Et les populations ont souscrit effectivement à ces mesures-là qui ont été érigées pour effectivement stopper l'évolution, la progression de la maladie. Alors, de jour en jour, après quelques jours, on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait une certaine cacophonie au niveau de la communication. Il n'y avait pas vraiment, on va le dire, un outil d'aide à la décision. Et ça partait dans tous les sens. Même au niveau effectivement des informations qui donnaient quotidiennement et qui faisaient effectivement l'état de la situation, avec le nombre effectivement de malades, moi je pense qu'ils n'ont pas d'abord anticipé. En fait, ils ont préféré recenser plutôt le nombre de personnes malades avec ce qu'ils ont appelé les cas contacts, au lieu d'avoir effectivement un échantillonnage cible, ce qui n'a pas été fait. Alors...
On va pas revenir sur toutes les mesures prises par le président Macky Sall. Elles sont très très nombreuses. Intéressons-nous à ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Le couvre-feu qui est dénoncé par une grande partie de la population et visiblement par vous également, Pape. Hier, il a été décidé d'alléger le couvre-feu. Est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? C'est-à-dire que le couvre-feu, il est instauré de 23h à 5h du matin au lieu de 21h à 5h du matin. Est-ce que c'est une réponse déjà vous convient?
Moi déjà, si vous me posiez la question, est-ce que j'étais pour effectivement la levée de ce couvre-feu, je dirais non. Mais au vu de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un précédent, à chaque fois on s'est rendu compte que l'État cédait à la pression. Parce qu'au tout début, il y avait eu effectivement, dans cette batterie de mesures-là, était interdit les lieux de culte. Et on se rendait compte que c'était une politique qui était appliquée et qui faisait effectivement état de deux poids, deux mesures. Parce que dans certaines cités religieuses, les mesures n'étaient pas du tout respectées, alors qu'ailleurs, effectivement, il y avait des imams qui se faisaient convoquer et ça partait dans tous les sens. À un moment donné, la population a fini par comprendre que c'était pas du tout effectivement la situation à laquelle effectivement on nous invitait à prendre du recul et à observer effectivement ces restrictions-là. Ce qui a valu effectivement cette réaction de la part de la population, puisque l'État avait fini de démissionner, puisque c'est le président même qui est sorti pour nous dire, au final, qu'il faut apprendre à vivre avec le virus.
Oui, bon.
Et face à la démission de l'État, il est normal que la rue prenne le pouvoir.
Donc la rue a pris le pouvoir, façon de parler. Les jeunes sont descendus dans la rue dans plusieurs grandes villes ces deux, trois derniers jours, avec des voitures qui ont été incendiées, des pneus brûlés, et finalement, il y a eu cet allègement des restrictions, allègement du couvre-feu notamment. Je vous interromps, Pape. Je pense que je peux vous donner le micro jusqu'à la fin de l'émission, mais il y a d'autres auditeurs qui souhaitent prendre la parole et profiter de cette libre antenne pour s'exprimer. Merci infiniment et continuez évidemment à prendre soin de vous. Philippe, soyez le bienvenu.
Bienvenue, Juan.
Merci, bienvenue donc, vous nous accueillez à Soa. Soa, c'est là où se trouve l'université de Yaoundé 2, c'est bien ça, au Cameroun?
Oui, bien évidemment, Juan.
Voilà, vous êtes étudiant en Master 2 de droit et vous êtes soulagé de la réouverture de l'université de Yaoundé, c'était lundi.
Oui, je dois dire que je suis tellement soulagé de la reprise des cours, ou alors la réouverture de l'université de Yaoundé 2, en fait des universités au niveau du Cameroun, une décision qui a été prise par le gouvernement camerounais. Déjà, je voudrais rappeler que si ces universités avaient été restées fermées, ça devait causer préjudice aux différents étudiants qui se sont battus pour valider toutes les unités d'enseignement au premier semestre. Et du coup, ceux qui ont eu à bien travailler ont été soulagés, y compris moi. Et vous pouvez le constater, le gouvernement camerounais a mis des dispositions, a pris des dispositions pour essayer de respecter les mesures barrières au sein du campus et en nous disposant
à oui. Donc vous choses. Êtes soulagé, Philippe, car il n'y aura pas d'année blanche. C'est vrai que c'était une inquiétude non seulement au Cameroun, mais dans quasiment tous les pays du continent africain qui ont décidé de fermer leurs universités. Quand vous parlez des mesures barrières, en quelques instants, elles sont vraiment respectées, parce que je sais à quoi ressemble un campus universitaire, et surtout sur le continent africain, où les amphithéâtres sont bondés. Il y a des places pour 300 élèves, et on se retrouve avec quasiment 600 étudiants. Comment ça se passe à Yaoundé 2 ?
Je dois vous rassurer, Juan, que ces mesures sont respectées. À Yaoundé 2, par exemple, dès l'entrée du campus de l'université, il y a déjà des cubiténaires d'eau qui sont mis à la disposition des différents étudiants. Donc, dès à l'entrée, on vous oblige à laver les mains, au lavage des mains avec de l'eau coulante et du savon. Et avant d'entrer, on vous prend la température via le thermoflash. Et déjà hier...
Et le masque est obligatoire.
Le masque est obligatoire pour avoir accès à l'intérieur du campus. Et arrivé déjà au campus, il faut savoir que nous avons chez nous les banques qui ont à peu près une dimension de 5 mètres. Et donc, il n'y a que 2, voire 3 étudiants par banc.
Ah, 3 étudiants par banc. Donc, il y a une distanciation physique qui est respectée. Merci Philippe et bonne fin d'année universitaire. Donc, et bon courage pour vos examens à SOA, donc au Cameroun. Tous les jours, une personnalité prend la parole dans Appel sur l'actualité pour réagir justement à cette pandémie de coronavirus. Ce matin avec nous, le romancier franco-togolais Samy Tchak. Bonjour Samy Tchak.
Bonjour.
Merci infiniment de prendre quelques instants. On a peu de temps ce matin, malheureusement. Les auditeurs sont très très bavards. Vous avez passé ces 3 derniers mois confinés à la maison, hein, puisque vous vivez en région parisienne. Période inédite qui vous a donné l'occasion à vous, mais comme à tous les intellectuels, de réfléchir justement sur les leçons qu'il va falloir tirer de cette crise sanitaire aux conséquences économiques et sociales. Samy Tchak, quelle est votre réflexion?
Oui, je pense que, comme beaucoup de personnes, j'ai eu un petit rêve de voir une pandémie qui nous ramène peut-être à quelque chose de différent. C'est-à-dire, nous allons réfléchir quand même sur le monde tel que nous le vivons et tel que nous souhaiterions le vivre. Mais je me suis rendu compte avant même la fin du confinement que, en fait, je me trompais dans la mesure où, au-delà de nos réflexions, il y avait en chacun de nous le manque du monde tel qu'il était.
C'est-à-dire le manque, le monde tel qu'il était avant l'épidémie, vous manque ?
C'est ce que j'ai constaté. Je me suis rendu compte que, assez égoïstement, quand je me dis ah, je n'ai pas pu aller au restaurant, je n'ai pas pu aller dans une librairie, je n'ai pas pu,
oui.
Je ne me suis pas projeté dans quelque chose de possible, différent de ce que je vivais.
Mais les leçons, on va pas s'interdire d'aller au restaurant ni d'acheter des livres. Au contraire, retournons dans les librairies, achetons des livres. Mais Samy Tchak, là où il va falloir peut-être changer, je ne sais pas, c'est peut-être sur notre façon de voir la mondialisation, notre façon de percevoir la santé, les questions économiques.
Oui, et là, je pense qu'on aurait pu avoir ce rêve-là, mais on a peut-être une chose qui est aussi évidente que ça. Nous sommes à l'intérieur des logiques d'une civilisation et que les logiques civilisationnelles, pour qu'on parle de véritables mutations, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Au contraire, ce que j'ai eu à dire dans un journal quand j'ai fait une interview, c'est que je crains même que le pire des logiques de notre système, de notre monde d'avant, ne se mette encore plus en évidence parce qu'il a du retard à rattraper. Mmh. Donc, je crois que tous les rêves de l'après-Covid sont peut-être très beau sur un plan poétique, alors que la réalité, elle est là, elle nous montre déjà ce qu'elle est, les licenciements. C'est-à-dire, à aucun moment, il n'y a eu d'ébranlement de nos certitudes ou du système sur lequel nous reposons. C'est tout simplement ce système-là qui va lui trouver des moyens très cruels pour retrouver sa force, retrouver sa santé, se remettre sur ses rails. Ouais. Il n'y a pas de monde à rêver après la Covid dans la mesure où...
Continuons quand même à rêver un tout petit peu, Sami Tchak. Merci infiniment d'avoir pris quelques minutes ce matin pour nous livrer votre analyse sur la pandémie de coronavirus. Je remercie d'ailleurs toutes les personnalités qui ces trois derniers mois ont toujours accepté justement de parler sur l'antenne de RFI. À suivre le journal.